Bien, nous allons, mesdames, messieurs, commencer le séminaire. Donc, j'ai le très grand plaisir de vous présenter professeur Damien Ruggera, qui était professeur d'anthropologie et de sociologie à l'Université nationale du Rwanda. Monsieur Ruggera, donc, est professeur Ruggera et anthropologue. Il a travaillé de nombreuses années à l'ONU-SIDA en Afrique de l'Ouest, donc bureau régional, c'est-à-dire couvrant 25 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il avait dirigé l'Organisation panafricaine de lutte contre le sida, l'OPALS, à l'époque aussi. Et il a été membre du Comité international de bioéthique de l'UNESCO et vice-président pour l'Afrique. Il est soi-disant à la retraite, très occupé, très sollicité, bénévole dans de nombreuses associations, consultant international, et on est très heureux. Bienvenue au Collège de France, Damien Ruggera. Nous nous connaissons depuis une vingtaine d'années. J'ai eu l'honneur de rencontrer Damien à la veille de mon départ en Côte d'Ivoire, donc en poste il y a 20 ans, et nous avions bien ri parce que je rentrais d'une mission humanitaire au Rwanda, où comme je m'appelle Kerwedan, au Rwanda, je m'appelais Kerwanda. Et ça avait bien fait rire Damien d'apprendre ça à l'époque. Et depuis, nous avons collaboré beaucoup. Et j'ai beaucoup appris de Damien. Et je suis contente que vous puissiez profiter de ses savoirs aujourd'hui. Tu as la parole.
Merci Dominique. Bonjour. Je te remercie quand même tout de suite de m'avoir invité à pouvoir... un peu donné de mon expérience et des analyses, des travaux que je fais de tous ceux qui se sont occupés, scientifiques et acteurs du sida en Afrique. Donc aujourd'hui, il s'agira de parler des représentations. Je vais quand même m'asseoir pour regarder. Des représentations et discours scientifiques articulés aux stratégies nationales et internationales de lutte contre l'épidémie. Ce tableau d'André Wirtz, la belle Rosine, m'inspire ce que j'ai trouvé chez André Glucksmann, La ferrure du monde, éthique et sida. Oui, il existe une responsabilité de chacun. Le sida réveille les questions fondamentales. La plus intime, celle de la confiance que se portent deux êtres qui s'aiment. La plus sociale, dans une situation où, fût-ce à son insu, tout homme, toute femme peut, en même temps, aimer et tuer. André Glucksmann, La ferrure du monde. C'est parce que le sida réveille les questions fondamentales qu'il est, plus que toute autre maladie, objet de représentations les plus extraordinaires. C'est parce que le sida est situé au confluent d'Eros et Thanatos qu'il a été l'objet de fantasmes aussi bien scientifiques que populaires. Nous allons donc d'abord examiner la teneur de ces représentations et revoir le discours scientifique qui a aussi nourri ces représentations. Ensuite, nous verrons comment ces représentations ainsi que le discours scientifique, se sont articulés aux stratégies nationales et internationales de lutte contre l'épidémie. Enfin, j'indiquerai les changements que la lutte contre le sida a contribué à faire advenir dans le monde et en Afrique en particulier. Mais vous me permettrez de commencer par donner quelques chiffres juste pour souligner l'ampleur de l'épidémie en Afrique. « je vois mieux. Je vais juste, pour ces chiffres-là, puisque vous pouvez les voir partout, je vais juste faire remarquer que sur 34 millions de nombre d'adultes et d'enfants vivant avec le VIH en 2011, 23,5 millions sont africains et africains d'Afrique subsaharienne. Bon, il y a bien 4 millions d'Asie du Sud et du Sud-Est et 1,4 million Europe orientale et Asie centrale, Amérique centrale et Sud 1,4 million et Amérique du Nord 1,4 million. Mais le rapport entre 34 millions et 23 millions d'Afrique subsaharienne montre bien l'ampleur de l'épidémie en Afrique. Pour le nombre d'adultes et d'enfants nouvellement infectés par le VIH, estimation, vous voyez bien que sur 2,5 millions d'adultes et enfants nouvellement infectés, sur les 2,5 millions, il y a 1,8 million d'Africains subsahariens. Et à part finalement les 80 millions d'Amérique du Sud, les 280 000, parce que là, l'épidémie est bien sûr en déplacement vers l'Asie du Sud et du Sud-Est, eh bien, nous avons toujours ce 1,8 million sur 2,5 millions africains. Le nombre de décès d'adultes et d'enfants liés au sida, juste sans parler des autres continents, sur 1,7 million du total, 1,2 million est africain. C'est quand même, je vais dire ça, là, c'est une estimation, c'est vrai, mais c'est le nombre de décès d'adultes et d'enfants. Idem pour l'estimation du nombre d'enfants moins de 15 ans vivant avec le VIH en 2011. Eh bien, sur 3,3 millions au niveau mondial, nous avons 3,1 millions de Sud, d'Africains subsaharienne. Pour le nombre d'enfants nouvellement infectés, vous voyez comment c'est dramatique, nous avons sur 330 000, nous avons 300 000 sont africains. Le nombre de décès d'enfants, et là, c'est comme la diapositive précédente, sur 230 000 mondiaux, nous avons 210 000 enfants, donc nombre de décès d'enfants en Afrique subsaharienne. Les représentations du sida. Voilà, je vais essayer de décrire, vous avez vu le virus, comment il s'est promené depuis le début. Bon, je l'ai un peu situé arbitrairement en océan Pacifique. Vous allez savoir pourquoi. Je ne pense pas peut-être qu'il ait été situé ça dès l'origine, mais vous allez voir pourquoi dans la suite des exposés. Donc, les représentations du sida. Dans un article paru en 1992 aux éditions Autrement, dans un ouvrage collectif intitulé « L'homme contaminé, la tourmente du sida », Françoise Héritier donne une remarquable lecture des représentations de ce mal invisible et sournois qu'est le sida. Elle explique comment des systèmes globaux de représentation sont amenés à intégrer cet événement pur qu'est la maladie pour lui donner sens. Elle indique trois types d'interprétations qui peuvent donner sens à l'événement qu'est le malheur biologique. Premièrement, le mal est une sanction immédiate, mécanique, d'une infraction insoupçonnée. Par exemple, on peut commettre un inceste sans savoir que la personne avec qui on a le rapport appartient à la même famille. Il n'en demeure pas moins que là, vous aurez c'est une infraction que vous ne soupçonnez pas, mais qui aura une sanction immédiate et mécanique. C'est surtout dans les sociétés traditionnelles que Françoise Héritier a analysé, surtout chez les Samoa au Burkina Faso. Donc, ici, la victime n'est pas nécessairement l'auteur de l'infraction. C'est une infraction à une règle sociale. Et donc, la sanction est immédiate. Alors, il y a plusieurs exemples. L'adultère sur la natte du mari, ça peut tuer le mari. Là, on est dans le registre des relations sexuelles. Par exemple, une femme allaitante, alors qu'au moment là, elle ne doit pas le faire. Un homme qui a des rapports avec une femme étrangère. Deuxièmement, le mari est le résultat de l'agression sorcière ou jalouse. Cette représentation-là est très connue d'un peu partout, même pas seulement en Afrique. Mais l'agression sorcière est un des éléments qui donne sens à des mots inexpliqués. Troisièmement, le mal est éventuellement en soi dû à une faiblesse particulière de certaines composantes de la personne ou des articulations de ces composantes. Il est vulnérable au contact d'autrui, des forces religieuses, des esprits, des ancêtres. Et ce contact peut tuer si la personne n'a pas la force de le supporter. Pour Françoise Héritier, c'est dans cette juxtaposition d'une mécanique archaïque des fluides du corps qui circulent, je cite donc, se rencontrent, s'attirent ou se repoussent, et la nécessité de donner sens à l'événement primaire que se situe le phénomène de l'irruption du sida. En effet, l'infection à VIH passe par les fluides essentiels de la vie. Ces fluides qu'on nomme sperme, sécrétion vaginale, lait maternel, et ces fluides donnent la vie. Et c'est à partir d'eux que nous pensons, les êtres humains, tous les êtres humains, l'identité, la parenté, la filiation, l'alliance. Et voilà qu'ils sont porteurs d'un mal invisible et sournois, je cite, qui ronge l'être et les rapports qu'il entretient avec autrui. La contagion par l'air, par le contact des objets qu'on touche, elle est vieille comme le monde. On sait ce que c'est cette contagion-là, on peut l'éviter. Mais avec le virus du sida, il s'agit de la contamination. Et la différence, là, comme on le verra, sera difficile à expliquer quand il s'agit de faire la prévention. Dès le départ, avec le sida, la mort est annoncée et elle passe par le sang, image de la vie. Il est impensable dans les sociétés appelées traditionnelles et donc africaines que le sang, le sperme et le lait qui donnent la vie puissent donner la mort. D'où une grande peur, un réflexe de survie par la négation ou le déni. Et c'est ce qui a caractérisé énormément la difficulté donc de lutter contre le sida au départ, la prévention, parce qu'il y avait un déni et donc un refus de l'existence du fait que la mort ne peut pas venir de ces éléments-là. Et les comportements discriminatoires, ça sont suivis, comportements discriminatoires des malades, par peur d'être contaminés, justement, puisque si on touche le malade, si on touche les objets qu'il a touchés, on peut être contaminé, et ce n'est plus une simple contamination comme les autres maladies, c'est une contamination qui culmine obligatoirement à la mort. D'où donc cette peur qui fait qu'on ne veut plus toucher le malade jusqu'à ce que finalement le malade meure et on fait des grandioses funérailles en disant que eh bien, c'est l'esprit qui l'a frappé, c'est la sorcellerie, c'est le poison. Le sida est donc perçu comme un fléau porteur d'angoisse individuelle et collective. L'ensemble des représentations du sida, punition de Dieu, sort rejeté par autrui, malédiction, sont renforcées par le fait que les médecins se déclarent pratiquement incompétents face à cette maladie. Il met en échec la science médicale. De plus, dès le départ, les scientifiques occidentaux affirment que ce fléau mortel, qui n'a ni médicaments ni vaccins, a comme origine l'Afrique. D'où la réplique des Africains qui se voient stigmatisés. En effet, c'est la panique en Afrique. Avant même d'obtenir une bourse pour aller faire des études en Belgique, par exemple, aux États-Unis ou en URSS, les jeunes Africains de l'époque sont testés, non pas par des médecins africains, mais par des médecins blancs, tellement la défiance est énorme. Ces médecins blancs désignés par leurs ambassades. Ce n'est pas n'importe quel médecin blanc. Donc vous voyez que les représentations là ont une ampleur jamais égalée. La bourse et le visa sont refusés à quiconque est testé séropositif au VIH et de ce fait, le statut sérologique de la personne est connu. Les soviétiques ont fait mieux, si l'on puisse dire, pardonnez-moi. Ils ont testé tous les étudiants africains qui étaient sur le sol de l'URSS et ont renvoyé ceux qui étaient dans leur pays respectif, ceux qui étaient séropositifs au VIH. Bien évidemment, ces pratiques ont alimenté la peur des Européens, craignant que désormais... Attendez, je ne me trompe pas. Oui, bien évidemment, ces pratiques ont alimenté la peur et les Européens craignaient désormais de faire du tourisme en Afrique et les Africains étaient regardés avec suspicion. Les garçons des cafés, par exemple, certains cafés en Europe, allaient jusqu'à broyer les verres utilisés par des Africains qui sont passés dans le café. Là, ce n'est pas des représentations, c'est ce qui s'est passé. La réplique des Africains n'a pas tardé, bien évidemment. Pour eux, le sida était une affaire des homosexuels et des usagers de drogue et l'homosexualité et l'usage de la drogue n'était pas tellement répandu en Afrique à l'époque. On est donc dans le registre de le mal, c'est l'autre. Le registre est connu de toute façon. Ainsi, par exemple, une association ici dont je fais partie, l'URACA, dans le 18e arrondissement, a procédé à une enquête à laquelle j'ai participé à Paris et en Ile-de-France en 1989 sur les représentations du sida dans les communautés d'immigrés africains. Et les résultats sont, en résumé, ceci. Cette maladie n'est pas d'abord biologique ni individuelle. Elle a des causes exogènes. Il s'agit de transgression d'interdits. Il s'agit d'une observance d'une règle sociale. C'est une maladie due aux esprits, aux ancêtres, aux génies, aux sorciers. Là, il n'y a pas tellement de différence avec ce que Françoise Héritier a décrit tout à l'heure. Ces résultats font évidemment écho aux travaux de Marc Auger, de Françoise Héritier, de Claudine Herzlich, de Sylvie Finzan et d'autres anthropologues qui ont fait des recherches sur en Afrique et dans le domaine de la maladie, notamment un livre est sorti qui s'appelle « Le sens du mal » qui était dirigé par Claudine Esrich. Cette enquête chez les migrants africains de la région parisienne a par ailleurs révélé que pour les migrants de l'époque, le sida était un mal blanc inoculé aux Africains par les touristes blancs. Pour eux, accuser les Africains d'être à l'origine du sida était ressenti comme une injustice, une de plus, moralement et psychologiquement intolérable. Voici un extrait de l'enquête. Donc, je cite ce qui a été dit par ces migrants. Les blancs font l'amour avec des chiens. J'ai vu ça à Sierre-Montmardi. C'était une émission de l'époque, une émission de télévision. Tous ces gens d'Occident qui vivent seuls, avec leurs chiens, leurs chats, cette façon de se conduire avec les animaux, cette publicité à la télé pour leur nourriture, ces chiens, ce sont leurs amants. C'est une maladie du monde civilisé, avec toutes ces conneries. Les hommes, à force de faire des trucs ensemble, ça donne des microbes. Cette enquête a aussi fait découvrir une histoire qui courait dans les foyers d'immigrés africains à l'époque de la région parisienne. Donc, une femme blanche aurait eu des rapports sexuels avec un chien dans la forêt et ce serait là l'origine du sida. Françoise Héritier, ayant écouté un exposé que j'avais fait dans un colloque à Abidjan sur le sciences sociales et sida en Afrique, a eu ce commentaire à propos de cette histoire. Vous avez, dit-elle, rapporté ici le cas de la copulation fantasmatique d'une femme avec un chien. Il y a aussi, a-t-elle dit, les représentations de l'alimentation avec l'image de manger du singe, qui étaient des représentations véhiculées, c'était même pas des représentations, c'était des affirmations véhiculées par des scientifiques de l'époque pour expliquer comment le virus du singe était passé à l'homme. On avait simplement mangé du singe. Et Françoise Héritier de dire, il y a aussi les représentations de l'alimentation avec l'image de manger du singe. Ces représentations se portent sur les sociétés d'en face. Et Antoine Lyon, toujours dans L'homme contaminé, de décrire « Quand les repères se brouillent, les imaginaires dérapent. » Pour clore ce chapitre sur les représentations, qui en fait, chapitre est inépuisable, notamment en ce qui concerne les évolutions de ces représentations dans le temps, je voudrais juste évoquer un résultat de ma recherche en Côte d'Ivoire fin 93-94, précisément sur les représentations des familles touchées par le VIH/SIDA à Abidjan et à Dabou, à 50 km d'Abidjan, avec l'appui de l'ANRS et de l'IRD qui aidaient beaucoup pour des recherches sur le SIDA justement en Afrique. J'ai enquêté sur 92 personnes, surtout des familles et des couples, infectées par le VIH. Et il s'agissait souvent de personnes qui ont un niveau d'études de collège, voire de lycée, des commerçants aisés, etc. Pour la majorité de ces personnes, le sida n'était plus une maladie de l'autre. C'était en 93-94. C'est leur propre maladie. Et la question qu'ils se posaient était « Pourquoi le sida? Pourquoi moi ?» Le problème était donc devenu individuel, avec un sentiment de culpabilité. Et l'histoire individuelle ne se confondait plus avec l'histoire du groupe communautaire. Voilà donc pour les représentations. Il y aurait beaucoup encore à dire, mais je m'arrête là. Donc je prends ici le discours scientifique. Le discours scientifique, les malades, les maladies sont en général nommées par les populations. En général, c'est à partir des symptômes, ou alors les maladies sont, portent le nom du découvreur. Eh bien, avec le sida, avec le VIH-SIDA, il en a été autrement. Ce sont les scientifiques qui ont découvert le virus et qui l'ont nommé, non pas par le nom Montagnégalo, mais avec un nom, virus de l'immunodéficience humaine. SIDA, syndrome de l'immunodéficience acquise. Et voici ce qu'en dit André Glucksmann. On définit le virus par la négative, par l'immunité disparue. On nomme ce qu'il est par ce qu'il n'est pas. La maladie devient l'absence d'une absence, l'insaisissable à l'état pur. Une tautologie, en quelque sorte, affirmer qu'une maladie se caractérise par le fait qu'on n'est pas immunisé contre elle revient à dire qu'elle est, comme toutes les maladies, une anti-santé. Pour la première fois, un fléau se voit étiqueté crime de lèse-majesté du concept, blasphème contre la providentielle immunité. Voilà, en fait, quand je parle du discours scientifique sur le sida, je me suis restreint juste sur l'Afrique. Je me suis restreint sur cet antagonisme, c'est-à-dire représentation du sida en Afrique et par les Africains et par les Européens. Et maintenant, je n'ai pas osé, je ne peux pas le dire, que les scientifiques avaient aussi ces représentations à partir desquelles ils faisaient des affirmations. Mais il est évident qu'il y a un problème. Et Glucksmann continue. Le logo dont on affirme traduit la surprise qu'il provoque et l'incrédulité qu'il rencontre. Loin de confirmer les ambitions d'une recherche en plein essor, l'imprévue contagion commence par la désespérer. L'important dans le sobriquet est le mot « déficience ». Comme si, ne combattant pas la loyale, le sida venait inscrire en creux son démenti. Il prend en traître les prétentions et prévisions de la médecine conquérante de ces deux derniers siècles. Je voudrais ici faire écho à un grand anthropologue, Gilles Bibeau, professeur d'anthropologie à l'Université de Montréal, et qui a écrit à propos du discours scientifique sur le sida, surtout en Afrique. Il a écrit un article extraordinaire dans Anthropologie et Sida qui s'appelle « L'Afrique, terre imaginaire du sida. La subversion du discours scientifique par le jeu des fantasmes. » Et ici, pour abréger, parce qu'il faut quand même que j'avance, eh bien, il a trois mots. Il a trois mots qu'il utilise, qu'il a mis en latin. Virus africanus, homo sexualis africanus, cultura sexualis africana. Alors, je ne sais plus si en latin on prononce africanus, je crois. Eh bien, l'origine affirmée à l'époque africaine du virus, soit du singe vert, soit des chimpanzés, je vous passe toute la littérature là-dessus. Pour Bibeau, il suit un schéma socio-biologique simpliste qui affirme qu'il existerait une programmation génétique prédisposant les Africains à l'absence de contraintes sexuelles, à la polygamie et à plus de maladies transmises sexuellement. D'où Homo sexualis africanus. Et en cela, Bibeau rappelle toute la littérature à partir d'un géographe hollandais du XVIIe siècle qui avait déjà pointé qu'en Afrique, à cause de la chaleur, les femmes avaient besoin d'avoir des relations régulièrement, des relations sexuelles, et que ça a amené d'ailleurs des maladies. Et Bibeau, comme vous le voyez là, donc ce virus africanus, donc africanus, il est au départ, donc il est d'origine africaine, et il est alimenté par le fait que l'homme africain est un homo sexualis africanus et que la culture africaine est une culture sexualis africana. Voilà pourquoi, pendant longtemps et même jusqu'à présent, au lieu de voir d'autres facteurs, ça a toujours été affirmé soit par les scientifiques, de moins en moins peut-être, mais que voilà pourquoi les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure. On n'a pas, là, on parle pas de pauvreté, on parle pas, on ne dit rien de ce que le professeur Kerouédan a donné tout à l'heure à propos de tous les facteurs aggravant le VIH qu'il vous a montré. Et donc, l'organisation sociale de la sexualité africaine a toujours fait l'objet de discours, de décrits, des pseudo-anthropologues et a toujours expliqué facilement les problèmes qui peuvent être alimentés, bien évidemment, par d'autres facteurs. Mais le plus fort n'est pas encore, je n'en ai pas encore parlé, c'est que là, on a un monsieur que vous connaissez bien sûr, Robert Gallo, bien sûr, comme les scientifiques de son époque, postule que le virus vient d'Afrique. Et lui, il a un schéma géographico-historique qui explique en général que, justement, une infection est apparue à tel moment précis, à tel endroit, et voici, et cela va expliquer un certain nombre de choses. Eh bien, Robert Gallo, qui classe, avant même que le virus, soit le VIH, n'ait été affirmé comme VIH, il classe le virus, qu'il est en train de découvrir avec Montagné, dans l'ensemble de ce qu'il a appelé donc des rétrovirus, HTLV1, HTLV2, et d'ailleurs, il classe le VIH dans le HTLV3. Et voici ce qu'il écrit. J'ai proposé que le HTLV1 soit apparu en Afrique, d'où il se serait propagé à de nombreux primates de l'Ancien Monde, notamment l'homme. Le commerce des esclaves l'aurait alors propagé en Amérique et même au Japon, au XVIe siècle. Les commerçants portugais qui voyagèrent au Japon furent confinés dans les îles du sud du pays où le HTLV1 est aujourd'hui endémique. Lors de ces voyages, les Portugais étaient accompagnés d'esclaves africains et de singes, nous y voilà, comme le montrent les œuvres d'art japonaises de cette époque, et ils ont dû introduire le virus. C'est Robert Gallo. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus parce que j'ai d'autres choses dont je dois vous entretenir, mais le décor que j'ai essayé de planter là, avec les chiffres aussi, donc des représentations du sida au départ et même dans son évolution, les représentations, plutôt le discours scientifique, mais qui est déjà biaisé, qui est déjà pour certains scientifiques fantasmé, eh bien cela va être quelque chose qui va obérer, qui va être un poids énorme comme obstacle. Voilà où la science aurait dû être quelque chose de facilitant, mais comme dans le cas du sida, comme des immenses obstacles pour la prévention du sida, surtout en Afrique. Alors, l'Afrique, parlons-en. Bon, le professeur Kerouédan en a parlé tout à l'heure, mais je voudrais souligner tout de même que c'est un continent où la pauvreté est immense, où les conflits armés, hélas, sont même d'actualité. Mali, Centrafrique, etc. Les orphelins, pas seulement du sida, les crises alimentaires répétitives, les réfugiés et populations déplacées à cause justement des conflits armés, les inégalités de genre. C'est sur ce continent, donc, que nous allons voir comment des stratégies nationales et internationales de lutte contre le sida se sont organisées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les années, au tout début, donc dans les années 80 et ensuite 90 et 2000? On peut voir, je dirais, deux grandes étapes pour les stratégies nationales de lutte contre l'épidémie. Mais avec l'OMS et le Programme mondial de lutte contre le sida, qui, je vous rappelle, avait été très soutenu par Jonathan Mann, qui a trouvé la mort dans un accident d'avion, eh bien, l'OMS aide les pays africains à faire, à l'époque, dans l'urgence, entre 1987 et 1988, le PC, c'est-à-dire le programme national, le plan à court terme. C'est des plans à court terme, des plans de lutte contre le sida. Entre 1989 et 1996 et 2000, on a eu on a eu ce qu'on a appelé les PM. Ah, je vois que ça manque. Excusez-moi, il manque quelque chose là. Vous voyez la flèche là, en dessous, il faut mettre PMT1, PMT2, sous la flèche de 1989 à 2000. PMT1, PMT2, c'est les plans à moyen terme de première et puis de deuxième génération. C'est-à-dire, il faut vous dire qu'on est dans des pays où la gouvernance n'est pas extraordinaire, où donc, pour lutter contre ce fléau qui décime les populations, il faut bien appuyer les ministères de la Santé, les pays, à s'organiser, parce que s'il n'y a pas de ces plans-là, il n'y a pas de financement. On ne finance que s'il y a des plans, et des plans, si possible, faits par des experts européens. Ah, évidemment, puisque les autres, ils ne savent pas beaucoup faire ces choses-là. Enfin, c'est ce qui est entendu. On ne les aide même pas. Nous, on envoie tout simplement auprès du ministre de la Santé un super monsieur ou dame qui va faire ce travail. Ceci étant, ça ne veut pas dire qu'ils ont suivi obligatoirement, enfin, qu'ils n'ont pas travaillé avec les nationaux. Il faut quand même tempérer. Mais c'est comme ça que ça marchait. Et ensuite, 2001-2005, c'est le premier cadre stratégique national de lutte contre le VIH-SIDA, IST, qui est toujours d'actualité puisqu'il y a eu un deuxième cadre. Alors, j'ai eu le privilège d'être à la fois africain et ce super expert à Abidjan, puisque pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, j'ai travaillé avec plein de gens, énormément de gens, à monter des cadres stratégiques nationaux pour 20 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Chaque pays n'étant pas quand même du coupé-coller, devant suivre les particularités de chaque pays. Et c'était un travail passionnant. Et chaque pays qui avait son cadre stratégique national, eh bien, il pouvait le faire financer. Et en général, c'est la particularité des PMT1, PMT2, entre 89 et 2000, c'est que c'est les experts qui faisaient ces plans-là. La particularité des cadres stratégiques nationaux, c'est que c'est tout le pays qui fait ce plan-là. C'est-à-dire, on intéresse aussi la société civile, on intéresse le privé, on intéresse les religieux, on intéresse tout le pays. Et c'est vraiment un travail colossal, mais qui permet d'ailleurs de booster certains autres secteurs et de l'économie et de la gouvernance. Et les deux cadres institutionnels dans lesquels s'inséraient les stratégies nationales de lutte contre le sida, l'épidémie, c'est le PNLS, Programme national de lutte contre le sida, jusqu'en 2000, et ensuite on est passé au CNLS, Comité national de lutte contre le sida, ou en anglais NAC, National AIDS Commission. Et je vais essayer d'aller rapidement. Alors, stratégie internationale. Sur le plan stratégie internationale, on a un nouveau mot avec le sida, c'est la multisectorialité. Et il y a eu, avec l'ONU-SIDA, qui a été créée après l'OMS, après que l'OMS lui a passé le flambeau, donc en 1996, et l'ONU-SIDA invente avec ses coparins, avec les autres, ce qu'on a appelé le TRIWANS. Tout ça, c'est en anglais en général. Alors, c'est une seule coordination nationale, un seul cadre de concertation, un système unique de suivi et évaluation. Le suivi et évaluation arrive là. C'est-à-dire, là, ça devient intéressant parce qu'on travaille avec des résultats attendus et des évaluations possibles. Et le cadre stratégique national intègre le secteur santé, secteur de l'action sociale, secteur des institutions et des ministères, autres que celui de la santé et de l'action sociale et de la famille, parce que c'est ces ministères-là, en général, qui travaillent sur les questions de santé et d'affaires sociales. Le secteur communautaire, très important avec les associations, et le secteur privé et des entreprises. Secteur privé et des entreprises, il faut bien comprendre aussi pourquoi, parce que souvent, ce sont les miniers, ce sont les personnes qui travaillent dans les mines et qui travaillent dans des endroits où ils sont confinés, etc., où donc le VIH est plus facile à se répandre. Multisectorialité. Alors, extraordinaire, ce qu'on ne sait pas ici en Europe, c'est que ces comités nationaux de lutte contre le sida, dans beaucoup de pays, ont comme président le président de la République ou le Premier ministre, pour placer le plus haut niveau, parce qu'en général, quand le président parle ou quand le Premier ministre parle, les ministres qu'on suive. Donc vous voyez, c'est parce que sur le sida, on est dans l'urgence, il y a des gens qui meurent. Donc, ministre des Finances, plan santé, personnalité religieuse. Coordination, il y a toujours un secrétariat permanent avec des comités régionaux et départementaux. Et l'exécution, c'est, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, des programmes sectoriels, santé, affaires sociales, défense, etc., jusqu'aux prisons, ONG et associations. Quelles sont les limites de la multisectorialité ? Car il y en a. Conflit de leadership. Le président nomme un ministre du sida à côté du ministre de la Santé. Paf, c'est la guerre. Multiplicité d'acteurs. Harmonisation difficile des partenaires techniques et financiers. Très difficile. Parce que, comme je le verrai dans quelques minutes, au niveau financement, ça va se bousculer aussi. Risque de doublons de financement. Coordination difficile avec le système national de santé qui n'est pas toujours à la hauteur pour avoir un leadership. Je passe très rapidement à une action qui a été faite par l'ONU-SIDA quand nous étions à Abidjan, qui vous montre simplement, c'est un clin d'œil pour vous montrer qu'on pouvait inventer aussi, sans suivre tout ce que je viens de vous dire. L'invention, c'est que, par exemple, nous voyons que le fleuve Congo, c'est un lieu où il y a des bateaux, et les gens peuvent passer 8 jours entre Kinshasa, Brazzaville et Bangui, et donc, pour le VIH, c'est très important de travailler sur ces bateaux-là. Il y a donc 4 pays, Centrafrique, RD Congo, République du Congo et Tchad, où il y a des conflits dans ces pays-là. Et donc, c'est la séroprévalence moyenne de 5%. Et nous arrivons à demander à l'ABAD un don de 8,1 millions d'US dollars en septembre 2003 pour travailler sur cet acte-là. Cet axe-là. Un autre axe, c'est le corridor d'Abidjan à Lagos. Un corridor routier énorme avec des frontières, avec beaucoup de. Et où le VIH et les IST, c'est connu, a fait des ravages. Donc, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, 825 km de long, intense activité économique et migration continuelle des populations, c'est la prévalence moyenne 5. Ça, et la Banque mondiale fait un don de 16 millions. De 1,6 sur 3 ans. Idem pour la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Libéria, Sierra Leone, c'est les pays du bassin de la rivière Mano. Et nous arrivons à trouver là encore 7 millions de l'ABAD. Là, c'est original. C'est avec un appui de Bristol Myers Squibb Foundation, quand les fondations privées commencent à venir aussi. C'est, vous voyez, le train qui va d'Abidjan à Bamako et ensuite de Bamako à Dakar. Là, il y a vulnérabilité et risque des IST liés à une intense mobilité de population et il y a 1,5 million qui permettent de faire de la, surtout de la prévention. Tout à l'heure, le professeur Kerouédan a bien souligné, c'est une question qu'il faudra sans doute prendre le temps, peut-être pas de discuter aujourd'hui, mais prévention, prise en charge. Financement de la lutte contre le sida. Je vais aller très rapidement, c'est des choses que vous connaissez. Coopération bilatérale, Union européenne, Nations unies, Banque mondiale, MAP, c'est Multisectoral Health Project, c'est-à-dire c'est les projets que la Banque mondiale a donné, a consenti à des pays, mais dans un cadre assez, bizarre, parce que c'est des prêts, mais c'est des prêts à taux très bas, mais c'est tout de même, ça a posé pas mal de problèmes, mais les dons, plutôt les prêts étaient là. Secteur privé, fondation, Bill Gates, Fonds mondial de lutte contre le sida, tuberculose, malaria, je m'arrête là-dessus. C'est quand même sur 10 ans, créé en 2002, 25 milliards 956,70 US dollars approuvés, mais décaissés, c'est 18 milliards. Ce n'est plus le pays en tant que tel, ce n'est plus le ministère de la Santé, ce n'est plus le ministère des Finances qui envoie des projets, c'est ce qu'on appelle le CCM, Country Coordinating Mechanism, c'est-à-dire qui comprend jusqu'à, c'est les règles du Fonds mondial, à 40% c'est des associations. Et donc ce n'est plus le monopole de l'État, c'est le pays vraiment qui envoie. Donc plus de 100, plus de 1000 programmes, 4,5 millions de personnes ont reçu des traitements, 9,7 millions tuberculose moustiquaire. Quels sont les obstacles pour la prévention et la prise en charge? Eh bien, c'est la représentation du sida dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est la stigmatisation et discrimination dans la vie quotidienne. C'est les violences faites aux femmes. Je ne vais pas tout énumérer, c'est exactement les diapos que le professeur Kerouédan a montrés tout à l'heure. En face de cela également, il faut souligner l'engagement, donc la politique, l'engagement des chefs d'État et de gouvernement. Donc, UNGA, c'est la session spéciale des Nations Unies sur le sida. Vous savez que le Conseil de sécurité avait fait de la question du sida une question de sécurité. C'est la déclaration des chefs d'État africains au sommet d'Abuja et d'Addis Abeba, déclaration politique en 2006, sommet des millénaires, donc je crois que Dr Kerouédan en a parlé. Et donc, ça n'est pas peu, c'est beaucoup, ce n'est pas des engagements verbaux seulement parce que ça se poursuit, parce que ça permet aux citoyens, aux ONG, etc., aux associations de titiller par rapport à ces engagements-là. De même, des lois sur le VIH apparaissent. Des lois pour faciliter, pour éviter la discrimination, pour éviter les, pour permettre aux personnes vivant avec le VIH de pouvoir vivre sans qu'ils soient emprisonnés ou de permettre, voilà. Donc c'est des chiffres qu'il faut prendre entre guillemets parce qu'il y a des évolutions. C'est pas fixe. 16 pays quand même sur 25 qui ont adopté ces lois-là. Et c'est important parce que ça protège. Certains pays, néanmoins, il faut le souligner, ont transformé, leur parlement ont transformé ces lois en, en lois punitives, en lois criminalisantes. Bien, un petit exemple, Aide, SIDAction, Solidarité SIDA, sont des associations ici, Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières, qui ont aidé beaucoup en Afrique. Mais j'ai pris juste l'exemple d'Esther parce qu'il me semble répondre aux interrogations du docteur Kerouédan par rapport à la prise en charge, à tous les problèmes que la prise en charge pose. Esther, c'est un ensemble de solidarité thérapeutique hospitalier en réseau et c'est 17 pays partenaires. C'est 45 hôpitaux français mobilisés, 70%, parce que c'est des jumelages entre les hôpitaux africains et les hôpitaux français. Ce n'est pas seulement l'Afrique, il y a l'Asie aussi. Alors, ça, c'est intéressant, vous pourriez le voir plus tard, tranquillement, les fonctions mobilisées dans le cadre des jumelages. Distribuer les antirétroviraux, ça n'est pas la prise en charge, c'est la distribution de médicaments. Mais comment les prendre, comment le suivi, etc. C'est ça la prise en charge. Et là, il y a 47% de médecins qui ont été mobilisés, des personnels de laboratoire, pharmaciens, psychologues, etc. Ici, c'est quand même 135 000 personnes vivant avec le VIH qui ont bénéficié de cet appui. Et cet appui, justement, ne s'arrête pas aux médicaments. Je vais le voir dans le diapositive suivant. 5 504 personnes formées, et dans tous les pays que vous voyez là. Et la prise en charge de cet exemple, quel est le profil des personnels formés? Et c'est les soins, conseillers psychosociaux, ce qu'on ne voit pas souvent, techniciens de laboratoire, pharmaciens, associations, psychologues, assistants sociaux, etc. Donc, 13,2% des personnes formées sont des conseillers psychosociaux ou médiateurs. Très important. C'est pourquoi j'ai pris cet exemple-là. Voilà l'accompagnement psychologique et social dans les pays africains. 869 médiateurs soutenus en Afrique, 117 associations soutenues en Afrique. Je l'ai vu au Cameroun, quand j'étais au Cameroun il y a 2 ans, j'ai vu tout ce travail-là. Quels sont les changements, et c'est là-dessus que je termine, quels sont les changements opérés par les réponses à l'épidémie? Car le sida a fait beaucoup de morts, le sida a fait beaucoup de ravages, le sida a été une fêlure du monde, comme dit Glucksmann, où le monde s'est effondré d'une certaine manière, comme le dirait Chinua Achebe. Eh bien, la promotion des droits humains avec le VIH, ça a été une avancée. Les droits humains, il y a des tas de domaines, le respect des malades, les lois dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le changement dans les rapports médecin-patient. Avant, le médecin était une sorte de dieu où on ne peut pas dire non, on ne peut pas, etc. Avec le virus, qu'au départ, il était tout aussi ignorant que ses patients. Bon, il connaissait la science, c'est vrai, mais il ne savait pas quoi faire, il était démuni. Eh bien, le rapport médecin-patient s'est amélioré. Changement dans les rapports hommes-femmes. Bien évidemment, on n'imagine pas avant comment une femme pouvait proposer le préservatif. Pour qu'il propose le préservatif, il faudrait qu'il propose l'acte. D'une certaine manière, c'est lui donner ce droit-là. Dans beaucoup de sociétés, il n'a pas cette initiative-là. Attention plus accrue au financement de la santé. C'est bien l'un des points importants de cette chaire de géopolitique de la santé mondiale, bien, c'est que, justement, on fasse attention à la santé comme un élément participant au développement des pays. Rôle accru de la société civile, manque à nous, dans la prévention et la prise en charge des maladies. Oui, la société civile, avant, c'était pas ça. Mais maintenant, ils ont un rôle accru. Le rôle central des associations de personnes touché par une maladie, là, les personnes vivant avec le VIH ont pris vraiment, dans beaucoup de pays, ils font partie de toutes les instances dont je vous ai parlé tout à l'heure, les associations de personnes vivant avec le VIH sont dedans. Pas seulement, ce n'est pas des potiches, c'est des gens qui participent aux décisions. Rôle de la politique et des politiques dans les questions de santé. Voilà. J'avais prévu une conclusion, je ne sais pas si j'ai le temps, je la donne quand même. Alors, conclusion. Il y a 30 ans, le sida a fait éruption dans le monde et celui-ci, comme dirait Chinua Achebe, s'est effondré. Je suis heureux d'avoir partagé avec vous mon expérience et mon petit savoir sur cette épidémie en Afrique dans le cadre de cette chaire « Savoir contre la pauvreté ». Merci infiniment à Dominique de m'avoir fait partager cette aventure sur géopolitique de la santé mondiale. Le sida au féminin, la pandémie africaine sont des défis majeurs du XXIe siècle. Le sida, plus qu'une maladie, il est bien évidemment un fait social total, comme vous le savez. et je voudrais ici rendre un hommage particulier appuyé à l'UNICIDA et à ses deux directeurs exécutifs, Peter Piot et Michel Sidibé, dont l'un, Peter Piot, a dirigé une chaire contre la pauvreté contre le savoir ici au Collège de France. Un travail colossal a été fait pendant ces 30 ans par des chercheurs, des médecins, des équipes soignantes, des bénévoles, des activistes, bref, des femmes et des hommes de bonne volonté décidés à stopper cette épidémie ou du moins à en atténuer les ravages. Mais nous ne sommes pas au bout de nos peines, nous dit SIDAction, qui récolte actuellement des fonds dont une partie soutient le continent africain dans sa lutte contre le sida. Il ne faut pas crier victoire trop vite. Merci de votre attention.